Le journal Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous. Thierry Breton, proposé il y a quelques minutes par Emmanuel Macron comme commissaire européen. Une nouvelle pleine d'espoir pour combattre la maladie d'Alzheimer. Un traitement était attendu depuis 30 ans. Un laboratoire américain va demander une autorisation de mise sur le marché d'un traitement qui vise à bloquer les troubles de la maladie. La Russie, le plus grand pays du monde, est encore un peu plus étendue que ce qu'on pensait. 5 nouvelles îles ont été découvertes dans l'océan Arctique, dans le nord-ouest de la Fédération. Et enfin, la sortie mondiale du nouvel album d'Astérix.
Au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, aujourd'hui, Cécilia Attias et Louis Sarkozy. Ils publient Une envie de désaccord, c'est aux éditions Plomb.
France Inter. C'est donc confirmé il y a quelques minutes, Emmanuel Macron a proposé Thierry Breton, actuel PDG du groupe Atos, ex-ministre de l'économie, comme commissaire européen. Après le rejet de Sylvie Goulard, Cyril Graziani suit le voyage présidentiel du chef de l'État à La Réunion. Emmanuel Macron vous a donc confirmé le nom de Thierry Breton.
Son nom circulait depuis quelques jours. Thierry Breton va être proposé pour devenir le commissaire au marché intérieur, cet énorme portefeuille obtenu par la France. Emmanuel Macron cherchait depuis le camouflet Goulard, un nom, la perle rare, capable d'allier technique, connaissance de l'Europe, expérience politique et surtout avec un CV vierge de condamnation ou de potentiels conflits d'intérêts. Thierry Breton pour l'Élysée est l'homme de la situation, d'autant qu'il a déjà travaillé avec la présidente de la commission, Ursula von der Leyen. Le profil de l'ancien ministre des Finances de Jacques Chirac est en adéquation avec son futur portefeuille, allant de la défense au numérique, à l'industrie, en passant par l'espace. Reste une étape à franchir et non des moindres, la validation de cette candidature. L'actuel patron de l'entreprise Atos va devoir passer devant la commission de parlementaires européens chargée de se prononcer sur d'éventuels conflits d'intérêts et réussir cette fois à les convaincre pour éviter à la France une nouvelle déconvenue.
Cyril Graziani.
Et à présent, Laurence, un réel espoir pour combattre la maladie d'Alzheimer qui touchera 75 millions de personnes d'ici 2030.
Pour la première fois, et alors que depuis des années tous les essais sur des médicaments avaient échoué, le laboratoire américain Biogen annonce une avancée, un traitement pour diminuer les symptômes. Plus de 2000 patients ont participé à cette étude. Cette molécule, Daniel Messager, vise à faire disparaître une protéine anormale qui s'accumule dans le cerveau.
C'est une histoire comme il en arrive rarement dans le domaine de la recherche. En mars dernier, le laboratoire Biogen annonce l'abandon d'essais sur un médicament pourtant très prometteur, car les résultats s'avèrent finalement négatifs. Immense déception et puis coup de théâtre, voilà que de nouvelles données qui n'avaient pas pu être étudiées avant la date d'arrêt sur des patients qui avaient reçu cette molécule à forte dose présentent des conclusions pleines d'espoir. Le professeur Bruno Dubois, directeur de l'Institut de la maladie d'Alzheimer à la Pitié-Salpêtrière.
C'est la première fois depuis que l'on travaille sur cette maladie, c'est la première fois qu'on a un médicament qui agit sur les lésions, c'est-à-dire qui bloque le processus pathologique et qui agit sur les symptômes. Les troubles cognitifs en général, la mémoire, le langage, l'orientation spatiale avec une amélioration de l'ordre de 27%. Et aussi sur l'autonomie des patients, c'est-à-dire sur l'impact que cette maladie entraîne dans les activités de tous les jours. Et donc là aussi, il y a une amélioration très significative de l'ordre de 40%. Jusque-là, c'était une période de vache maigre, on n'avait que des résultats négatifs. On est reparti vers des perspectives qui sont de nouveau vraiment positives.
Des résultats qui ne vont pas se transformer tout de suite en médicaments. La bataille n'est évidemment pas encore gagnée, mais le laboratoire va maintenant demander des autorisations de mise sur le marché aux États-Unis et en Europe.
Daniel Messager, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, ouvrir des droits à l'assurance chômage pour les salariés démissionnaires. Le gouvernement s'apprête à publier le décret. Leur indemnisation sera officiellement possible au 1er novembre prochain, dans les faits au 1er janvier, car les commissions régionales qui vont valider les projets ne sont pas encore en place. Mais attention, démissionner n'ouvrira pas automatiquement des droits à l'assurance chômage. Pour en bénéficier, Laurent Kramer, ce salarié démissionnaire devra justifier d'un projet de reconversion professionnelle.
Pour encadrer cette nouvelle mesure et ne pas voir des cohortes de salariés démissionner sans projet professionnel, le gouvernement met en place 3 étapes de validation. Avant même de démissionner, le salarié devra tout d'abord convaincre et faire la démonstration que son projet de reconversion ou de création d'entreprise tient la route. Plan de formation et débouchés professionnels à l'appui. En justifiant impérativement de 5 années d'activité continue, le salarié devra décrocher Un premier feu vert au niveau régional auprès d'un conseiller en évolution professionnelle. Puis un deuxième feu vert, une attestation que son projet est réel et sérieux. Cette fois auprès d'une commission paritaire régionale composée d'employeurs et de salariés. Le projet de démission et de reconversion, enfin validé dans une toute dernière étape dans les 6 mois par Pôle emploi, ne restera plus aux salariés qu'à démissionner.
Laurent Kremer, plus de train entre Montpellier et Toulouse et Montpellier l'Espagne, au moins jusqu'à la rentrée des classes le 4 novembre. Une situation compliquée en pleine vacances scolaires, mais c'est la conséquence des violents orages qui ont balayé le littoral méditerranéen. Et ce n'est pas à cause du mauvais temps, mais en raison d'une grève. À peine 6 TGV sur 10 circuleront aujourd'hui sur la partie ouest du pays. Conséquence d'un mouvement social entamé hier au centre de maintenance de Châtillon, d'où sortent quotidiennement les TGV qui font le trajet entre Paris, Nantes, Rennes et Bordeaux. Décidément, une mauvaise passe pour la SNCF. Maxime Deps.
Au regard du week-end qu'on vient de vivre, on s'en serait bien passé au siège de la SNCF, à l'étage de la direction, hier, tout juste digéré l'affaire du droit de retrait. Il a fallu gérer un nouveau départ de feu, sans lien avec celui à peine éteint. Cette fois, rien à voir avec l'accident de TER en Champagne ou avec le débat sur la présence d'un contrôleur dans tous les trains express régionaux, non. Il est question ici d'un coup de pression de Sudrail, alors que syndicats et directions sont engagés dans des négociations sur plus de polyvalence de la part des agents. Sudrail plutôt coutumier de ce genre d'action et dont on se dit qu'elle pourrait se multiplier dans les semaines à venir, alors que les dossiers sur le feu sont nombreux, entre les conditions d'embauche des futurs cheminots qui restent à définir avant le 1er janvier, la réforme des retraites qui approche à grands pas et cette question de sécurité à bord des TER qui, sur le fond, n'est toujours pas réglée. Les occasions de battre le fer au sein de l'entreprise ne risque pas de manquer.
Maxime Deps, à l'étranger, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier encore à Santiago du Chili. 5e jour d'une mobilisation qui a fait 18 morts. Les promesses de réforme sociale du président Piñera n'ont pas convaincu les manifestants. Et c'est la même chose au Liban. La mobilisation ne faiblit pas. Malgré les annonces de réforme du Premier ministre Hariri, les manifestants demandent la démission du gouvernement. C'est une réunion tendue qui s'annonce aujourd'hui à l'OTAN à Bruxelles. Tendue car il est compliqué d'avoir en son sein un pays, la Turquie, qui se lance dans une opération armée sur laquelle tout le monde n'était pas d'accord. Pour les 3/4 des pays de l'OTAN, l'offensive turque, officieusement causée par les États-Unis, menace désormais la sécurité de l'Europe. La Turquie n'est pas la seule dans le collimateur des membres de l'Alliance Atlantique. Certains pays reprochent au secrétaire général d'avoir qualifié de légitimes les préoccupations sécuritaires de la Turquie. Réaction horrifiée au Royaume-Uni après la découverte près de Londres, dans l'Essex, d'un camion réfrigéré de 39 corps, dont celui d'un adolescent. Le chauffeur, âgé de 25 ans, originaire d'Irlande du Nord, a été arrêté dans le cadre d'une enquête pour meurtre après cette découverte macabre. Il pourrait s'agir d'un nouveau drame de l'immigration clandestine, mais aucune indication dans l'immédiat sur l'origine ni sur l'identité de ces malheureux. On sait seulement que ce camion, immatriculé en Bulgarie, n'était plus en territoire bulgare depuis 2 ans. Quand la Russie s'agrandit avec le réchauffement climatique, des petites îles ont été localisées dans l'océan Arctique à l'extrême nord de la Russie. La fonte des glaces a en effet permis à une expédition de la marine russe de les découvrir. Elles n'ont pas encore de nom, mais c'est la preuve que la Russie poursuit lentement mais sûrement la conquête de ce territoire, Valérie Krova.
Leur taille a été évaluée à environ 8 terrains de football, une goutte d'eau dans l'océan. Mais la découverte de ces 5 petites îles a une valeur symbolique, souligne Miko Mered, professeur en géopolitique des pôles.
Moscou utilise ce genre de découverte pour renforcer toujours plus le discours souverain sur la place de la Russie en Arctique comme étant l'État dominant.
Un État expansionniste aussi. Alors que ses richesses se tarissent dans le sud de son territoire, la Russie a tout intérêt à exploiter les énormes ressources de l'Arctique.
Aujourd'hui, l'Arctique russe, ça représente déjà 80% de la production de gaz de la Russie, ce qui est faramineux, et puis même pour le pétrole, puisque plus de 20% du pétrole russe aujourd'hui est déjà produit dans la zone arctique.
Et la fonte de la banquise profite doublement à la Russie qui, grâce à la route maritime du Nord, pourra gagner plusieurs milliers de kilomètres en évitant le canal de Suez.
C'est la partie arctique de la Russie qui fond en premier et le plus vite. En réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Russes sont avantagés pas juste par les ressources naturelles, mais aussi par la façon dont les glaces fondent en Arctique.
L'Arctique, ou le nouvel Eldorado, dont la conquête passe aussi par la construction d'infrastructures, notamment de ports et de bases militaires.
Valérie Crova, il y a un peu d'adrénaline pour terminer ce journal. Adrénaline, c'est l'héroïne du nouvel album d'Astérix, 38e album, 4e, signé du duo Ferry Conrad. Pour la première fois, une ado rebelle va occuper les bulles de la nouvelle BD du célèbre Gaulois. Et même si c'est un hasard, la jeune Adrénaline, avec les préoccupations de notre époque, son visage sévère et sa longue tresse, a des faux airs de Greta Thunberg, Jacqueline Petros.
La silhouette d'Adrénaline a pris corps bien avant l'arrivée de la jeune Suédoise dans l'actualité, mais cela prouve qu'Astérix est toujours dans l'air du temps. Les aventures de cette ado fugueuse et renfrognée permettent à Ferry des références au prélèvement à la source et à l'homoparentalité. La jeune fille, très écolo, poursuivie par César, est prête au combat, mais elle rêve surtout de liberté, alors que ses pères de substitution, deux guerriers du FARC, le Front Arverne de Résistance Secrète, veulent l'emmener à Londres pour échapper à l'empereur. Mais la fille de Vercingétorix, surtout, redonne à Astérix son côté combatif, ce petit air teigneux des premières aventures. La très bonne idée de Ferry et Conrad est la création de Selfix et Blinix, les fils du forgeron et du poissonnier, ados grognons mais courageux. De mettre en valeur, et ils le méritent, les pirates avec un hommage surprenant et sympathique à Charles Aznavour, et de reconstituer une bataille navale des plus réjouissantes. La fin arrive un peu vite, mais comme disent les Arvernes au banquet, l'essentiel, c'est le bonheur de nos enfants.
Jacqueline Petros, la fille de Vercingétorix aux éditions Albert René, et Jean-Yves Ferry et Didier Conrad sont les invités ce matin d'Augustin Trapenard.